Chronique des livres. Ici Périnée de Clé. En ce vendredi, le jour de Vénus, 2 octobre de l'an de grâce 2009, à tous, présents et à venir, qui voulez bien nous écouter, salut. Pour beaucoup de périodes de l'histoire du monde, l'histoire vraie reste à faire. Le professeur Hertz l'a magnifiquement établi, notamment dans « L'histoire assassinée », objet d'une recension sur cette antenne même pour ceux qui écoutent ces émissions. Mais cela est particulièrement vrai pour le Second Empire. Ce régime est en effet la victime de l'imposture scandaleuse des historiens officiels de la République triomphante, messieurs Seignobos, Lavis et autres. L'histoire est écrite par les vainqueurs. D'autant plus que ce régime est d'autre part vilipendé par les orléanistes et autres libéraux, entre guillemets, et démocrates ou prétendus tels. Il en est ainsi notamment du domaine si délicat et important pour la suite des événements, des rapports entre l'Église et l'Empire, entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Une étude a heureusement été assez récemment publiée sur cette question capitale. Il s'agit de l'ouvrage du professeur Pichot-Bravard, « Le pape ou l'empereur, les catholiques et Napoléon III », aux éditions Tempora. C'est en fait l'histoire même du Second Empire dont traite ce remarquable historien des idées et des doctrines politiques, remontant pour ce faire jusqu'à la Révolution dite française et à sa Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais, au-delà de son importance historique, c'est aussi de la question même, véritablement capitale, des rapports entre le domaine spirituel et le domaine temporel, entre Dieu et César, dont traite ce remarquable travail. Le retour à l'Empire était inscrit dans la Révolution, dans les journées de février 1848. En 3 journées seulement, est congédié comme un valet indélicat le fils du régicide Philippe Égalité, le roi bourgeois. Juste retour des choses que ce congédiement du roi des Français, qualifié par Lafayette de meilleur des républiques, « Sire, lui dit-il, vous êtes la meilleure des républiques, ignominieux usurpateur de la couronne de Charles X. Même pas capable, non plus que ses fils, de défendre son larcin. » La chute de ce régime bourgeois et même petit bourgeois, dur pour l'ouvrier, matérialiste, servile envers l'Angleterre de Palmerston et de Pritchard, provoqua, et on la comprend, une véritable liesse populaire, dans ce printemps extrêmement précoce, dès le début du mois de février. L'on connaît un mouvement de fraternisation générale, cette France qui s'ennuyait, selon le mot de Lamartine, respire un air de libération, un air de liberté. Nous vivons, pourra écrire le républicain Ranke, la plus sublime des poésies. Ce sont les derniers feux du romantisme. Hernani et le fameux gilet rouge ne sont pas si anciens. L'Église elle-même ressent avec soulagement, et à juste titre également, la chute d'un régime voltairien, anticlérical, matérialiste et même anticatholique. Le clergé n'hésite pas à bénir les arbres de la liberté érigés un peu partout. Les votations, elles ont lieu alors au chef-lieu de canton, sont l'occasion de cortèges joyeux et fervents, emmenés au son des cantiques et de la musique par M. le maire et M. le curé. Cependant, l'enthousiasme est éphémère. Le désenchantement apparaît bien vite. L'agitation dans la rue, les émeutes sont presque permanentes. Le gouvernement provisoire est orienté à gauche. Pour la première fois, y siègent des rouges, les démocrates socialistes, par exemple l'historien d'ailleurs de talent, Louis Blanc, et l'ouvrier Albert. Un ancien forçat, coussidière, s'empare de la préfecture de police et se s'autoproclame préfet de police. Très vite se constitue un parti de l'ordre où se regroupent tous ceux qui veulent faire barrage à la révolution, au désordre, au socialisme qualifié apocalypse. Il s'agit de sauver la civilisation contre les partageux, les rouges. s'y regroupent en particulier les notables de province et les hiérarques du régime orléaniste, dont le principal représentant est M. Adolphe Thiers. La constitution de la Deuxième République, assez absurde, avec son application rigide, irréaliste, du faux principe de séparation des pouvoirs défini par Montesquieu, apparaît très vite comme inopérante contre le désordre. Pour en sortir, il faut trouver un chef suffisamment résolu et docile aux directives des chefs du parti de l'ordre, ce qui est contradictoire en soi. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu du grand empereur, apparaît comme le candidat idéal. Il est, dit Thiers, vain, obstiné et brutal. C'est un crétin que l'on mènera. Ils vont vite déchanter. C'est l'Empire qu'ils ont appelé. Que font les catholiques? Hormis les irréductibles du comte de Chambord, qui associent catholicisme et légitimité, la masse, même dans les départements de l'Ouest, le Maine-et-Loire par exemple, vote pour le prince président. Et au moins au début, les élites également. Contre la révolution terrifiante, c'est le rempart césarien que l'on choisit. L'homme fort, envoyé par la Providence, comme l'écrit le président Troulon. Voter pour Louis-Napoléon, écrit Montalembert, pourtant un catholique de gauche, c'est choisir entre lui et la ruine totale de la France. Arrivent les journées de juin, effectivement. En quelques jours, la révolte des ouvriers des ateliers nationaux fera presque 6000 victimes, tant dans les forces de l'ordre que dans les révoltés. Les révoltés qui sont des ouvriers dont beaucoup, faute de pouvoir se payer un remplaçant, ont été appelés pour 6 ans et même quelquefois 8 ou 9 ans dans les armes spéciales, dans la cavalerie par exemple, à servir en Algérie, qui ne s'appelle pas encore comme ça, et qui ont... Ce sont des soldats, des combattants très bien instruits, presque à peu près aussi bien que les soldats auxquels ils seront affrontés, d'où les pertes considérables, sans oublier notamment de mentionner Mgr Affre, qui tombera sur les barricades, essayant de séparer les combattants, et aura ces paroles sublimes avant de mourir, que mon sang soit le dernier versé, ce qui n'aura pas été écouté. Pourtant, ces notables catholiques, légitimistes ou libéraux, s'ils reconnaissent que c'est le premier consul, l'oncle de l'empereur, qui a fait sortir l'Église des catacombes en 1801 avec le Concordat, rejettent le césarisme, ce régime d'autorité appuyé sur la démocratie plébéienne, sur la plèbe. Les chefs des différentes sensibilités catholiques, comme on dirait maintenant, reprochent à l'Empire une forme de despotisme politique, mais aussi religieux, exercé grâce au concordat et au droit, par exemple, de nommer et présenter les évêques à l'institution canonique par Rome. Ils sont libéraux, ces gens-là. Ils ne sont pas démocrates. Ils combattent pour des libertés concrètes, avant tout, par exemple, celle de l'enseignement, capitale à la vérité, et qu'ils obtiendront en 1850 avec la loi Falloux. Mais c'est une liberté surveillée, étroitement contrôlée, une loi de compromis. L'auteur fait en quelques lignes un remarquable portrait des principaux chefs catholiques. Veuillot, un croisé, pas un politique. Falloux, souple, ondoyant, remarquable négociateur, pratique l'art du possible. Montalembert, fils d'une protestante écossaise, démocrate chrétien avant la lettre. Hostile à l'infaillibilité pontificale, il a un concile d'avance. À la différence des élites, la masse des catholiques continue, sans enthousiasme, il est vrai, à soutenir un empire garant de l'ordre social, de l'ordre dans la rue, de la sécurité, et aussi, il faut bien le dire, d'un niveau de vie en progression. Même à la fin, en ces oripeaux, d'empire libéral et parlementaire, le régime bénéficie du soutien des masses rurales dans l'ouest de la France. Ce qui va cependant, du moins partiellement, détacher les catholiques de l'Empire, ce sera la qualité des rapports de celui-ci avec l'Église. Le soutien à l'Empire suivra les fluctuations de ses relations de l'Empire avec l'Église. À ce sujet, ce qui va avoir des effets majeurs sur l'attitude catholique vis-à-vis de l'Empire, c'est la question des états du pape, menacés par l'impérialisme maçonnique de la dynastie de Savoie, de Piémont-Savoie. Ceci alors que cette question des états de l'Église, qui repose sur une imposture, l'imposture d'une prétendue donation du patrimoine de Pierre, est en réalité mineure, accessoire, par rapport au pouvoir spirituel du prince des apôtres et de ses successeurs. La position de Napoléon III sera constamment ambiguë. Son adhésion au principe des nationalités, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sa volonté de favoriser l'unité de cette Italie qu'il aimait et où il avait conspiré en 1830, tout cela portait fatalement en soi l'absorption des états du pape. D'autre part, l'empereur, sous notamment l'influence, la grande influence de l'impératrice très religieuse, entendait maintenir tout de même un territoire papal, plus important que le Vatican et son jardin des accords du Latran, une manière d'Avignon dans Rome, en quelque sorte. Ainsi s'expliquent les variations de la politique impériale s'agissant de Rome. Il dut, certes, mettre en œuvre la décision prise par Cavaignac, un général républicain, de rétablir Pie IX, chassé de son trône par Mazzini en 1849. Mais l'on n'est pas sûr que l'empereur eût de lui-même ordonné cette expédition. En fait, le Saint-Père Pie IX, un saint, était un inhabile aux choses de ce monde. Cet enfant de lumière ne se donnait qu'à sa mission propre de gouverner l'Église, d'affermir et définir toujours mieux les dogmes et la doctrine, d'encourager la pratique. Curieusement, comme le prévoyait le catholique de gauche républicain Arnaud de l'Ariège, l'anéantissement du pouvoir temporel de l'Église semble avoir libéré le souverain pontife et de ses attaches matérielles pour se consacrer tout entier à la reconquête spirituelle. Aucun pape ne fut d'ailleurs l'objet d'un amour, d'un dévouement comme il en connut de la part des fidèles, hormis peut-être Jean-Paul II, mais cela tenait du spectacle. Il commença par placer son combat contre les erreurs de la philosophie du XVIIIe siècle et de la Révolution sous la protection de la reine du ciel et de la terre. La proclamation solennelle du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 devait établir de façon éclatante que si la Vierge admirable était Immaculata, l'être humain était, lui, pécheur, et devait non se révolter contre Dieu, se faire Dieu à sa place, mais suivre l'exemple de la Madone, l'imiter dans la voie du fiat. C'était exorciser le rousseauisme révolutionnaire. De façon éclatante, 4 ans plus tard, à Lourdes, la très sainte Vierge, se présentant elle-même à la touchante petite Bernadette comme l'Immaculée Conception, viendra donner sa sanction, son auguste sanction, à ce nouveau dogme. Quelques années après, par l'encyclique Quanta Cura et son résumé, le Syllabus, le Saint-Père prononça la condamnation des erreurs modernes qui s'épanouiront avec l'hérésie condamnée plus tard par Saint Pie X sous le nom de modernisme et tenteront, avec succès, une mainmise sur le Concile Vatican II et sa suite. Enfin, Pie IX eut à cœur de parfaire le centralisme, l'absolutisme légitime de l'autorité dans l'Église en faisant définir le dogme de l'infaillibilité pontificale au Concile Vatican I. Dogme assez mal reçu d'ailleurs, par plusieurs évêques français notamment, Dupanloup, Darbois et autres, comme d'ailleurs l'avait été, incroyable mais vrai, le dogme de l'Immaculée Conception. Ce renforcement du pouvoir spirituel du pape et de son rayonnement ne pouvait qu'indisposer le régime impérial. Le pouvoir rejetait des condamnations dogmatiques englobant justement les principes révolutionnaires dont se réclamait le régime. Si l'Église recommandait de rendre à César ce qui est à César, elle rejetait bien sûr par avance le dit de Clémenceau et tout est à César. Ce don allait mettre fin au conflit entre l'Empire entre l'empereur et le pape, mais l'opposition spirituelle temporelle subsisterait et allait s'amplifier. À la vérité, la question dure depuis l'origine des temps et durera jusqu'à la fin des temps. Elle s'est posée tout au long de l'Empire romain d'Orient et en Europe, tout au long du Moyen-Âge, en Europe d'Occident, tout au long du Moyen-Âge, avec en alternance domination d'un pouvoir sur l'autre. Le conflit reprendra de la force avec, reprend de la force avec la prétention des créons modernes de mettre la loi des hommes au-dessus de celle de Dieu. Tout porte à croire qu'il durera jusqu'à la parousie. L'on reste confondu de la qualité du travail du professeur Pichot-Bravard, de son érudition très fouillée, de la justesse des idées et considérations qu'il contient. Sa lecture est un point de passage obligé pour la compréhension des événements jusqu'à maintenant et au-delà. L'on ne peut s'en dispenser. Merci de nous avoir écoutés avec patience. À une autre fois, quand ce mois du rosaire nous garde particulièrement en ces temps d'apostasie et d'abomination, au pluriel, la très sainte Vierge, si magnifiquement honorée par le bienheureux Pie IX, et hec ad majorem Dei gloriam.